16h25, très exactement. Philippe Quentin est là. Martin McGuire s'en vient. Philippe, haute victoire pour Eugénie.
Oui, hier, tout à fait, au tournoi Challenger de Houston. Je te le rappelle, Patrick, c'est pas un gros tournoi. La bourse pour la joueuse qui va remporter le tournoi, c'est à peine plus de 20 000 $. Donc, on s'entend. On n'est pas dans un tournoi de premier plan. Mais il en reste pas moins que pour elle, rebâtir sa confiance. C'est important, un, de jouer, puis deux, de gagner des matchs. Parce que aussi, l'autre problème qu'elle rencontre, c'est quand elle se fait éliminer tellement rapidement, elle peut pas jouer, elle peut pas vraiment s'améliorer, alors c'est très difficile. Alors, elle a gagné son premier match, on s'en souvient, il y a 3 jours maintenant à Houston. Hier, elle passait donc en 16e de finale et son adversaire s'est retiré au 2e set, mais Eugénie Bouchard menait à ce moment-là 6-2 et 3-1, donc elle était en plein contrôle de la rencontre. Et demain, ben, elle sera en 8e de finale contre une joueuse originaire du Luxembourg qui est 10e favorite du tournoi. Alors, pour elle, c'est sûr, on est encore très loin du grand retour en force. Mais tu sais, ce qu'il faut qu'elle ait, Eugénie Bouchard, si elle veut poursuivre sa carrière en 2020, il faut qu'elle ait au moindrement un petit socle sur lequel se poser pour essayer de dire « OK, à partir de là, je vais essayer de progresser ». Si elle n'a pas ça, ça perd même dans des challengers en première ronde. Ça vient vraiment déprimant. Alors là, c'est peu, mais au moins c'est là.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de... Puis je sais là que Eugénie Bouchard, c'est une athlète, c'est une personnalité polarisante.
Ouais. Okay?
Mais il y a quelque chose d'admirable dans le fait que, écoute, elle retourne là dans la cale du paquebot là, pour refaire ses classes.
Je suis assez d'accord avec toi. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est au niveau de l'entraînement, elle continue de dire qu'elle s'entraîne beaucoup et tout. C'est plus difficile là, de vérifier ça sur une base quotidienne. Mais il en reste pas moins qu'on pensait peut-être qu'elle abandonnerait et que c'est pas le cas. Elle continue et elle, quand tu le dis très bien, quand tu acceptes de retourner faire des challengers comme ceux-là, c'est que tu as encore un peu de passion en toi. Et d'ailleurs, elle n'est pas la seule joueuse. Là. Je regardais la liste des joueuses qui participent à ce tournoi-là. Il y a quelques noms connus. Ben, connus, tu sais, c'est pas des têtes d'affiche.
Ils se sont approchés du soleil.
Ouais, c'est ça. Puis qui ont été blessés, puis qui tentent un retour. Alors, elle n'est pas la seule à traverser une période comme celle-là. Maintenant, on verra si elle sera capable de rebondir un temps soit peu. Mais ça reste une joueuse qui est intéressante.
OK. La Formule 1 veut améliorer son empreinte carbone. Est-ce que c'est possible?
Bon, gros contrat, mais ce sont les nouveaux propriétaires de la Formule 1. On dit nouveau, maintenant, ça fait deux ans et demi qu'ils sont là. Liberty Media, qui est une entreprise américaine. Le PDG s'appelle de la Formule 1 s'appelle Chase Carey. C'est un gars qui a des idées, qui veut vraiment rendre plus moderne la Formule 1, parce qu'on sait que sous le règne de Bernie Ecclestone, on était à bien des niveaux vissés dans les années 70. Alors là, bon, il s'attaque au dossier environnemental. Et il y avait une dépêche de l'AFP. C'est vraiment intéressant parce que, tu sais, quand on pense à l'empreinte carbone de la Formule 1, on se dit, ah, les courses, les voitures et, tu sais, tout ce que ça dégage. Mais c'est pas vraiment ça le problème parce que dans au niveau des pourcentages, c'est d'abord et avant tout le transport du matériel. Ils voyagent partout à travers le monde dans des avions en transportant des Formule 1 et tout l'équipement technique qui s'y rattache. Ils voyagent avec des équipes de mécanos, de directeurs sportifs. En tout cas, c'est beaucoup de monde pour chaque écurie. Et enfin, tous les employés partout dans chacun des pays, et notamment au siège social. Alors, tout ça, là, tous ces gens-là, tous ces facteurs-là, le transport du matériel, les bureaux et tout, c'est près des 3/4 des émissions de carbone qui sont générées de cette façon-là.
C'est pas les voitures sur la piste de course.
C'est ça. Mais c'est là aussi. Là, il va falloir qu'ils fassent des efforts. Alors, on voudrait produire un moteur à combustion interne hybride, dit-on, zéro émission. Mais peu importe, là, on ne se dira pas dans les détails. Ce qui est important, c'est qu'il semble avoir une prise de conscience. Alors, on ne peut que dire bravo à ça.
Bravo. Bon, ben merci Philippe. On te retrouve demain. Il est 16h29 et là-dessus, on continue le volet sport. On s'en va à Brossard, au centre d'entraînement du Canadien de Montréal. Et Martin McGuire, Marc Bergevin a fait aujourd'hui son point de presse de quart de saison. Et écoute, au lendemain d'une victoire spectaculaire, je pense qu'il est arrivé avec le sourire.
Sourire, mais pas extrêmement volubile. Je pense qu'il s'est restreint à répondre précisément aux questions qui lui ont été posées. Il n'est pas allé plus loin. On sentait là, que pour lui, là, il y avait certaines choses là, précises auxquelles il était disposé à parler, d'autres peut-être un peu moins. Il a dit, entre autres, qu'il était assez satisfait de son équipe. Entre autres, il nous a dit que son équipe est une des meilleures actuellement dans la LNH pour le nombre de buts marqués en troisième période. Il a dit ça veut dire que nos joueurs sont en bonne condition physique. Ça veut dire aussi que dans les moments cruciaux, quand les matchs sont sur la ligne, on réagit bien. Alors ça, c'est de bon augure. Il a pas parlé beaucoup des joueurs individuellement. J'ai tenté de lui faire parler un petit peu de Claude Julien, puis c'est là où, oui, il a dit notre coach a de l'expérience et tout ça, son expérience est importante, mais il dit, moi, je regarde ça, là, il dit actuellement, il y a 22 clubs dans la Ligue qui peuvent accéder aux places en série. Alors, il dit, un soir, t'es là, là, t'en perds deux, t'en perds une, puis tu descends de trois rangs. Puis il a parfaitement raison, là. Les Hurricanes de la Caroline, on les pensait sur l'autoroute, ils en perdent trois d'affilée, ils descendent de trois étages. Alors ça, Marc Bergevin l'a dit, il l'a mentionné, il dit, pour nous, là, il dit, va falloir vraiment être régulier dans nos performances. Puis ce qu'il aime pas de son club, c'est l'irrégularité dans les matchs. Une grosse période, une période moins bonne, là, il rattrape le momentum en troisième. Il dit ça, ça peut nous nuire en deuxième moitié de saison. Il a notamment parlé de ça. Il a aussi parlé de ses recrues. Et c'est là que ça devient intéressant. Kotkaniemi, qui est sur les lignes de côté avec une blessure à l'aine, c'est compliqué un petit peu. Il patine, ça s'en vient, il n'a pas encore eu le feu vert. Mais vous allez écouter l'extrait. Marc Bergevin dit, il y a eu un mauvais départ, mais la blessure l'a peut-être empêché de pousser. Et c'est pas exclu que Kotkaniemi pourra aller faire un petit séjour à Laval. On écoute le directeur général.
Il y a eu un début de saison un peu plus difficile que lui, personnellement, et qu'on s'attendait de lui. Mais au regard de sa blessure, que nous, on croit que c'est pas une blessure qui était, c'est pas blessé durant le camp d'entraînement, mais je pense que c'est plus une faiblesse au niveau de son corps aussi, qui a eu de la misère à pousser. Puis c'est peut-être une des raisons pourquoi il y a eu des hauts, des beaux au début de la saison. Alors, c'est pour ça qu'on est plus prudent avec lui en ce moment, pour dès que son retour, qui devrait être bientôt, va être capable d'apprendre le niveau qu'on s'attend de lui pour qu'il puisse performer au niveau plus élevé. Quand un jeune joueur a la possibilité de le mettre dans la Ligue américaine pour un développement sans mettre au balotage, c'est toujours une option. Mais jusqu'à ce moment, ici, on se parle aujourd'hui, c'est pas dans les cartes.
Paling est rendu, lui, Patrick, par contre, dans la Ligue américaine. Il a été cédé hier soir après le match. C'est pas qu'on n'est pas content de lui, mais là, on l'a déplacé du centre à l'aile, puis dans... je sais pas si on va avoir le temps de l'entendre, là, mais dans le prochain extrait, Marc Bergevin dit « Paling, là, c'est pas un ailier ». Alors moi, on l'envoyait à Laval pour qu'il puisse regagner un peu en vitesse et en confiance, mais on veut pas faire un ailier gauche avec lui. On écoute.
Bien, la façon que je vois ça pour Ryan, écoute, Ryan, c'est un centre à la fin de la journée. Alors, en ce moment, ici à Montréal, avec les centres qu'on a, comme Nick qui joue bien au centre, et Nate sur le quatrième trio, on l'a mis à l'aile. C'est difficile pour un jeune, c'est toujours facile pour un centre de jouer à l'aile, je suis d'accord, mais un centre qui n'a jamais joué dans la Ligue nationale, de le mettre à l'aile, c'est plus difficile. Alors, je donne du slack un peu à Ryan, parce que je sais qu'il a joué à l'aile gauche, puis c'est pas sa position qui est la plus... qui n'a plus l'habitude à jouer parce qu'il est toujours au centre. Alors, avec le temps, il va jouer au centre, mais il a besoin du millage et c'est pour ça qu'il est à Laval en ce moment.
Il y a d'autres sujets intéressants, Patrick. Il a parlé de son club école. Le club école à Laval va très bien par les temps qui courent, principalement à cause du jeune gardien recrue Caden Primo. Ça nous a donné l'occasion de parler de son deuxième gardien, Kincaid. Ils sont pas complètement satisfaits, Patrick.
Ah non?
Il a pas été transcendant quand il a eu à expliquer la tenue de Kincaid. Puis il a dit en plus, Price actuellement est sur un rythme d'utilisation de 66 matchs. C'est beaucoup trop. S'il garde le même rythme qu'actuellement, là. Alors, le directeur général a dit, Kincaid va avoir un autre départ bientôt, là. Ça veut dire que son prochain départ, peut-être en fin de semaine, parce qu'il y a un 2-2,
ça va être crucial.
Ça va être important pour lui d'envoyer le bon message, de dire « OK, on veut réduire le temps de jeu de Price un peu, on veut pas certainement pas le pousser plus loin que les 60 matchs, mais il faut que le deuxième soit capable de faire la job. »
OK, parfait. Ben merci beaucoup, Martin. On va se reparler demain. Tantôt, j'ai salué Philippe, j'ai souhaité une bonne journée, j'ai dit « on se revoit demain », mais Philippe est resté autour de la table et il y a une nouvelle importante en soccer dont tu veux nous parler.
Oui, il y a 10 minutes, le Galaxy de Los Angeles a annoncé que Zlatan Ibrahimovic, voilà, ne serait pas de retour la saison prochaine. On sait que la rumeur courait depuis un certain temps que Ibrahimovic voulait aller en Europe, mais voilà, c'est confirmé par l'équipe. Le message page sur Twitter est disponible depuis une dizaine de minutes.
C'est un international. Lui, s'est distingué.
Oui, tout à
en
fait.
En Europe et
grand,
en jouant.
Grand joueur. Dans c'est ça. Je vous invite, si vous avez Twitter, allez voir son message à lui-même, ce qu'il dit pour dire je suis venu, j'ai conquis et maintenant je retourne. C'est hallucinant.
Ça n'a jamais été la modestie qui l'a étouffé, ce monsieur-là. Il faut dire qu'il est très, très bon sur un terrain. Merci, Philippe. Bonne journée. On se revoit demain pour vrai. 16h35, au retour de la chronique de Catherine Beauchamp.